apporter le message quand même, mais on a un peu insisté pour, voilà, pour qu'il prenne son, ce temps aussi en famille. Et il a accepté donc de laisser la place. Et c'est donc un thème particulier que j'aimerais reprendre. Ah, pourquoi reprendre ? Parce que on va vous montrer une vidéo. Et pour les gens qui sont assidus, vous verrez, ah, ça vous rappelle quelque chose. C'est une vidéo que Laetitia nous a présentée lors de, d'une de ses présidences. On peut éteindre les lumières ? Voilà, donc ça s'appelle le test du chamallow.
Okay, isn't that your... All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right.
Voilà, donc on promet à, la, à cet enfant qu'on lui donnera un deuxième chamallow s'il attend sur la chaise sans manger le premier. Donc c'est un test que les psychologues ont fait pour voir un peu le fonctionnement de l'être humain. Et vous voyez que c'est un peu difficile hein, pour les enfants de, d'attendre, mais ils le font quand même parce qu'ils ont confiance. Hein, ils ont confiance dans l'adulte qui leur a promis. Qui leur a promis d'en avoir un deuxième. Alors moi, ce qui m'a vraiment touché en regardant cette vidéo, c'était que les enfants, ils le touchent, ils le regardent, ils le sentent. Il y en a même qui le goûtent un tout petit peu. Mais ils attendent. Et là, ça m'a vraiment fait penser à un texte de la parole de Dieu qui nous demande de goûter que le Seigneur est bon. Voilà, on va arrêter là. Merci. Alors, dans notre famille, c'est quelque chose d'important de goûter, hein, de faire goûter aux enfants. Et des fois, c'est un petit peu un combat. Des fois, goûter chez nous, c'est... par exemple, j'ai fait une bonne sauce. Enfin, moi, je pense qu'elle est bonne. Et quand je leur fais goûter, ils prennent la pointe d'un couteau. Alors, quand je dis la pointe, c'est vraiment la pointe. Hein, c'est pas un centimètre. Hein. Et puis, ils goûtent la petite pointe et ils me disent « Ouais, ça va » ou « Oh non, j'en veux pas ». Par contre, quand c'est un hamburger... Et qu'on entend « Je peux goûter le hamburger ?» hein, on entend le hamburger et « Schlack !» la moitié est partie. Voilà. Goûter et constater que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. C'est un texte qui se trouve dans le psaume 34, au verset 9, et qui a été écrit mille ans avant Jésus-Christ. Dans une autre traduction, celle de Louis II, on peut lire « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». C'est vraiment la vidéo, hein, sentir, regarder, goûter. Et un autre traducteur dans la Bible de Martin nous dit « Savourez, savourez et voyez que l'Éternel est bon ». Alors, les parents se disent « Oui, mais on force les enfants à goûter. » Oui, mais vous ne les forcez pas à manger. Hein, juste à goûter. Après, c'est eux qui choisissent s'ils mangent ou pas. Quelque part, ça respecte la liberté. Hein, et ici, Dieu ne s'impose pas. Hein, il nous dit « Venez goûter, voyez que l'Éternel est bon. » Après, vous pouvez décider si vous voulez en manger plus ou pas. Oui, dans ce texte aussi, il nous est dit « Dieu est bon ». Savoureux. Il apporte ce dont nous avons besoin. Notre corps reconnaît les choses qui sont utiles et il le reconnaît comme étant bon. Par exemple, nous avons besoin de sucre pour notre cerveau. Et on est souvent attiré par le sucré. On a besoin de matières grasses pour avoir de l'énergie pour notre cœur. On est aussi attiré par le gras. Vous me direz, le gras, le salé et le sucré, c'est ce qu'on entend tout le temps à la télé, c'est ce qui n'est pas bon. C'est l'excès qui n'est pas bon. Notre corps a besoin de sel et c'était très difficile d'en trouver. Donc notre corps, il aime le sel, il aime le salé parce que c'était quelque chose de rare. Bon, maintenant c'est l'inverse. Il y en a trop et il faut plutôt qu'on s'en abstienne pour notre santé. En tout cas, Dieu, quand il nous a dit « il est bon », ça veut dire qu'il est bon pour nous, esprit, âme et corps. Quand nous nous approchons de Dieu, il nous fait du bien dans tout notre être. Le prophète Ésaïe a repris ce thème à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Dans Ésaïe 55, nous pouvons lire « Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. » Ésaïe a vraiment touché au même point. Dieu, c'est quelque chose qui est bon. C'est l'écouter qui permet de se nourrir de Dieu. C'est en l'écoutant. Tendez l'oreille, venez à moi, vous vivrez. Sa parole est bonne, sa parole est savoureuse et elle apporte la vie dans tout notre être. L'apôtre Pierre nous dit aussi, dans à peu près 60 ans après Jésus-Christ, dans sa lettre aux croyants, dans cette première lettre, « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, la jalousie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Pierre reprend ce thème, « Vous avez goûté combien le Seigneur est bon, alors, plutôt que de chercher toutes ces choses mauvaises pour votre âme, désirez la parole de Dieu. C'est comme du lait pur qui fait grandir. Oui, en goûtant à Dieu, on reçoit une nouvelle naissance spirituelle. Et l'apôtre nous encourage à nous nourrir de ce que Dieu dit, de Jésus-Christ que la Bible appelle la parole. La parole de Dieu qui a été faite chair. Cette vie se développe et grandit en nous pour nous permettre d'être en relation avec Dieu. Voilà, goûtez. Goûtez à Dieu, vous verrez combien il est bon et combien la vie qu'il donne va se développer en vous. Mais cette vie, elle commence quand on goûte à Dieu. Mais elle doit aussi se continuer. Et du coup, eh bien, Dieu nous donne, comme ses enfants, la possibilité d'avoir des acomptes, un petit morceau, avant de l'avoir en entier. Et il nous a donné un acompte, qui est le Saint-Esprit. Voilà, c'est l'acompte. Alors, pour les plus jeunes, qu'est-ce que c'est un acompte? Alors on dit aussi, dans le temps on disait les arts, c'était quelque chose qu'on payait à quelqu'un, mais ce n'était pas la somme en entier. Par exemple, quand vous achetez une voiture, vous payez une première somme pour réserver au garagiste, on appelle ça l'acompte, et puis après, à la livraison, vous payez le reste. Eh bien, l'acompte signifie qu'il va y avoir un reste, qu'il va y avoir quelque chose qui va être beaucoup plus grand que cette petite partie. Et Dieu nous donne donc une petite partie de quelque chose de beaucoup plus grand qu'il va nous donner ensuite. C'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre, la deuxième lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, vers à peu près l'an 60 après Jésus-Christ. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Il a mis cet esprit comme acompte des biens à venir. Et un peu plus loin, dans la même lettre, je lis, « C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme un acompte des biens à venir. » Il dit la même chose quand il écrit aux Éphésiens, aux habitants d'Éphèse qui croyaient en Jésus, « C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage. » Donc, si je regarde bien, des biens à venir, donc Dieu nous prépare des biens à venir, un héritage, Dieu nous prépare quelque chose. C'est pourquoi je vous lis le verset 18, où, toujours dans Éphésiens au chapitre 1, Paul dit aux croyants, il prie Dieu qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Il y a donc un héritage que Dieu a préparé pour chacun de ceux qui croient en lui. Dans Romains, au chapitre 8, Paul, qui écrit aux Romains, leur dit « Nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit ? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. » Oui, Dieu a préparé quelque chose pour nous. Il nous donne un acompte, c'est le Saint-Esprit. Et ce qu'il nous promet, c'est des biens. On se demande qu'est-ce que ça peut bien être. Un héritage et une position. Fils adoptif de Dieu, fille adoptive de Dieu. Ce sont les enfants qui héritent des parents. Et c'est ce que Dieu, ici, met en place. Il nous dit, vous êtes mes enfants et vous allez hériter. Vous serez avec moi et vous posséderez toutes ces choses. Enfin, je ne peux pas vous les décrire parce qu'elles sont, je pense, trop grandes. En tout cas, Dieu les prépare pour ceux qui lui appartiennent. Et du coup, il y a un thème qui apparaît ici dans la Bible qu'on appelle l'espérance. Il y a trois choses qui demeurent, nous dit l'apôtre Paul, la foi, l'amour, l'espérance. La plus grande des trois, c'est l'amour. Mais ces choses demeurent. Donc Dieu nous prépare quelque chose et il nous permet d'y goûter par le Saint-Esprit. C'est comme cet enfant-là qui attend son deuxième chamallow. Nous attendons quelque chose que le Seigneur nous prépare, la vie éternelle avec lui, avec un corps ressuscité en étant son fils, sa fille. C'est quelque chose de merveilleux. Oui, c'est merveilleux et ça nous est proposé gratuitement, puisque Jésus a payé. Oui, nous sommes nés spirituellement à la vie avec Dieu, mais nous ne sommes pas encore pleinement avec Dieu, dans un corps à l'image de celui de Christ ressuscité, qui peut être auprès du Père Nous n'avons pas encore toutes les bonnes choses que Dieu nous réserve, mais nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est un avant-goût, un acompte. Et cela nous donne l'espérance de toutes ces choses. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager, mais j'aimerais quand même terminer un petit peu avec quelques coups d'œil sur Jésus, qui est le carburant de notre espérance. Quand Jésus arrive dans le village où se trouve Lazare est enterré depuis 4 jours. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe, qu'il est mort. Et quand Marthe apprit que Jésus approchait, elle alla à sa rencontre et dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Oui, la résurrection de Lazare, c'est un peu un avant-goût de notre résurrection. Jésus n'a pas ressuscité tous les morts qu'il y avait autour de Jérusalem, là où il était. Il nous est parlé de 3, si je ne me trompe pas, hein, la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn et Lazare. Mais Jésus a voulu montrer qu'il est la résurrection. Il a donné un avant-goût pour montrer que, oui, tous revivront en lui. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 19, « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. » Oui, Jésus est un avant-goût de la résurrection. Il est ressuscité et il nous promet qu'il nous ressuscitera. Et c'est un autre avant-goût que nous vivons avec Jésus lors du baptême. Lors du baptême, nous sommes ensevelis avec Christ par le baptême et c'est dans l'union avec lui que nous sommes ressuscités par la foi dans la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Nous pouvons vivre un autre avant-goût dans la Sainte Cène. Lorsque nous partageons le pain, quand nous partageons le vin, nous nous souvenons de Jésus qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Jésus a parlé de lui-même, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. » Voilà quelques avant-goûts que nous pouvons avoir de l'éternité avec le Seigneur. Mais j'en ai trouvé un troisième. Très étonnant celui-là. Alors, je crois vraiment que c'est un avant-goût, mais il est un petit peu difficile à exprimer. Donc, je vais vous lire 2 traductions. Dans la Bible à la Colombe, dans Philippiens 2, verset 1, S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Hein, ici, l'apôtre Paul, il dit bien, oui, vous avez quand même goûté des choses, hein, vous avez quand même découvert des choses quand vous avez cru au Seigneur. Dans Philippiens 2, on a toujours verset 1, dans une autre traduction, celle du semeur, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Et la conséquence, rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Voilà, nous avons tous ces cadeaux de Dieu. Hein, ces avant-goûts, nous pouvons le goûter, le toucher, le sentir à travers nos frères et sœurs, à travers les moments que nous passons ensemble, que ce soit au culte ou dans la semaine. Et c'est pourquoi Dieu nous encourage à ne pas perdre courage et à tenir ferme, à persévérer dans cette espérance qui nous prépare. Oui, et pour nous, Église, ici, réunie, ayons ce goût de Jésus-Christ qui donne envie à ceux qui ne le connaissent pas de faire ce pas et de dire « Oui, je veux aussi goûter à Dieu. » Nous voulons prier. Oui, merci Seigneur de ce que tu nous as donné, Jésus. Merci Seigneur pour... Oui, cet avant-goût du ciel que nous avons en croyant à toi. Et Seigneur, nous voulons maintenant te demander encore de bénir chacun et d'encourager ceux qui ont besoin d'encouragement, de force, Seigneur, donne-leur des forces. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.